VFM présente Faut qu'on en parle, une heure de débat sur des sujets d'actualité et de société de notre territoire.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'RTVFM dans l'émission Faut qu'on en parle aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir par téléphone Monsieur Lucien Stanzione, sénateur PS de Vaucluse. Monsieur Stanzione, bonjour.
Bonjour à tous.
Merci tout d'abord d'avoir souhaité répondre à nos questions. Et pour cette émission, je serai accompagné aussi de Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour Florian, bonjour Monsieur le sénateur.
Bonjour Bruno.
Alors, pour commencer un petit peu, on souhaitait vous demander un petit peu le rôle d'un sénateur. Comment est-ce qu'il est élu et quelles sont ses fonctions un petit peu? Parce que c'est vrai que des personnes ne savent pas forcément quel est le rôle d'un sénateur.
Alors, le rôle d'un sénateur, c'est avant tout un élu du département, puisqu'il est élu par les conseillers municipaux, les maires, les députés, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux. C'est-à-dire que c'est un mode d'élection indirect, c'est-à-dire que les citoyens ne votent pas directement, mais ce sont ce qu'on appelle les grands élus, que je viens de nommer. Et donc, ils sont élus pour un mandat de 6 ans. Il y en a 3 dans le département de Vaucluse. Et donc, la principale mission, c'est de travailler sur le terrain avec les élus locaux, sur le développement des territoires, que ce soit les communes, les communautés de communes, nos agglomérations en particulier. Et puis, le deuxième grand rôle, c'est d'être législateur, c'est-à-dire de participer à l'élaboration de la loi qui concerne l'ensemble des Français, et la loi dans tous ses domaines. Quand je dis la loi, ce sont toutes les lois. Et ça, c'est aussi le travail qui se passe au Palais du Luxembourg. Et donc, la session parlementaire va reprendre la semaine prochaine. Et là, nous allons attaquer directement le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, puis ensuite le projet de loi de finances de l'État, c'est-à-dire de tous les Français, pour l'année 2023. Alors, c'est un long travail qui dure pendant quasiment 2 mois, jusqu'à presque la fin de l'année, avec énormément de débats, c'est-à-dire que le gouvernement apporte ses propositions et ensuite, dans le cadre de l'hémicycle, mais aussi en commission, parce que on a l'impression de ne voir les sénateurs que quand ils sont dans l'hémicycle, c'est le mercredi, en d'autres après-midi à 15h, puisqu'il y a c'est le moment des questions au gouvernement, mais là, ça dure 1h30. Puis ensuite, il y a tout un travail en commission qui se passe, mais ça, on ne le voit pas, le public ne le voit pas. Et ce travail en commission permet d'étudier tous les textes proposés par le gouvernement, d'en proposer nous-mêmes, puisque les parlementaires font des propositions de loi qui viennent améliorer les textes en vigueur. Et ça, c'est toute l'année jusqu'à la fin de la session. Alors, en général, la session se termine vers le 15 juillet. Cette année, elle a été beaucoup plus longue, puisque suite aux élections législatives, le gouvernement a voulu modifier le budget de l'État et apporter par une loi sur le pouvoir d'achat des modifications d'un certain nombre de minima sociaux en particulier. Et donc, nous avons siégé jusqu'au 6 août. Voilà. Donc, c'est un travail de longue haleine. Toutes les semaines, nous sommes à Paris. Bon, moi, personnellement, je pars le lundi soir pour être de bonne heure mardi matin. Et je reste au Sénat jusqu'au jeudi soir et je rentre à l'un des derniers trains de jeudi soir sur Avignon et dans le Vaucluse. Et le reste du temps, bien entendu, je le consacre au territoire, c'est-à-dire aux communes, aux communautés de communes et d'agglomérations en priorité, mais également aux grandes institutions, aux chambres consulaires, mais aussi au secteur de l'entreprise. Et ça, je le fais sur le département le lundi, le vendredi et le samedi. Et puis j'essaye parfois de conserver le dimanche un peu pour la famille, mais bon, c'est pas toujours possible. Voilà.
On voit que vos semaines sont bien chargées, Monsieur Stanzione. Et justement, on va voir votre implication sur le territoire à travers les différents sujets qu'on va aborder un petit peu. Et notamment ce premier sujet sur la lavande. On en entend parler depuis plusieurs mois. Et je vais donc laisser un petit peu Bruno commencer.
Alors, Monsieur le Sénateur, pourquoi l'Europe veut-elle interdire la lavande?
Alors, l'Europe veut interdire la lavande. Alors, c'est pas tout à fait la lavande, c'est l'huile essentielle de lavande, et particulièrement celle de Haute-Provence, qui fait l'objet d'ailleurs d'une appellation d'origine contrôlée. Alors pourquoi? Ben simplement parce que la lavande, l'huile essentielle de lavande est constituée de à peu près 600 constituants produits identifiés dans l'huile de lavande. Il y a 600 constituants. Parmi ces 600 constituants, il y en a un ou deux ou trois qui peuvent poser quelques problèmes d'allergie, et puis un où on se pose des questions, est-ce que ce serait pas peut-être toxique? Un sur 600. Et donc, au principe de précaution, en fait, du fait qu'il y a un produit qui pourrait créer des allergies, un autre produit qui pourrait être nocif, eh bien, on a décidé, enfin, l'Europe tente de décider que tous les 600 produits mélangés dans l'huile de lavande deviennent nocifs tous. Et donc, l'huile deviendrait nocive, ce qui est quand même une ineptie, puisque depuis des siècles, la lavande est cultivée sur le plateau de Sceaux, le plateau de Valensole, dans la Drôme également. Et depuis des siècles, on utilise à des fins médicinales, entre autres, l'huile essentielle de lavande de Provence, et que jamais personne n'a été malade ou a pu avoir des allergies, ou si ça s'est produit, ça a été extrêmement limité, et on n'en entend en tout cas pas parler. Puisque de la lavande, on en trouve dans beaucoup de produits, que ce soit les lessives, les savons, les parfums, et même dans les traitements médicaux, puisque on a des traitements à base d'huile essentielle de lavande. Et donc c'est une non-reconnaissance de la valeur de ce produit qui est ancestral, et que encore une fois, on est face à la bureaucratie européenne et qui tente de limiter l'utilisation de ce produit.
Alors justement, comment est-ce qu'elle le limite? Qu'est-ce que l'Europe a mis en œuvre au niveau juridique pour interdire justement cette utilisation d'huiles essentielles?
Ben, actuellement, dans les discussions qui sont en cours entre la filière de la lavande, le gouvernement français, bon, les parlementaires, puisque nous sommes dans le coin trois parlementaires à nous préoccuper de ce sujet, Marie-Pierre Monnier, qui est sénatrice de la Drôme, moi-même, et Jean-Rive Roux, qui est sénateur des Alpes de Haute-Provence. Qu'est-ce qui nous est répondu? Ben, c'est que, en fait, ils exigent à ce que, aujourd'hui, maintenant, les 600 constituants de l'huile essentielle de lavande soient analysés un après l'autre pour vérifier si effectivement ces constituants-là pourraient être nocifs. Et donc, puisque pour l'instant, ces études ne sont toujours pas faites, ils envisageraient tout simplement d'interdire l'utilisation de l'huile de lavande, comme on pourrait l'envisager pour un produit issu du pétrole, par exemple, qui lui est nocif plutôt. Et donc, on se retrouve dans cette espèce d'absurdité où l'huile essentielle de lavande est quasiment traitée comme pour être traité un produit pétrolier, ce qui est quand même quelque chose de quand même inadmissible.
Oui, et alors, est-ce qu'il y a des solutions pour résoudre ce problème?
Ben, la solution, je crois que la filière de la lavande la donne. Ce sont des professionnels qui sont vraiment rompus à l'exploitation de ce beau produit. C'est de considérer l'huile essentielle de lavande comme étant un produit en tant que tel naturel. C'est d'ailleurs toujours ce qui a été dit. C'est un produit naturel qui est distillé de façon naturelle à partir de l'eau, d'ailleurs on en parlera après, mais et qui n'est pas spécialement plus toxique que n'importe quel produit naturel. Et donc à partir de là, il faut considérer l'huile essentielle de lavande comme telle, comme un produit naturel, utilisable, et c'est la seule solution pour reconnaître la valeur de ce produit, quoi, qui est, encore une fois, je le répète, c'est un produit ancestral, quoi, dans notre région.
Et justement, Monsieur Stanzione, est-ce qu'il y a un impact sur le marché de l'emploi sur notre territoire en raison donc de cette interdiction par l'Europe?
Ben, l'impact, il est considérable parce que c'est pas uniquement les cultivateurs qui font pousser la lavande sur le plateau de Sceaux, mais c'est aussi les distillateurs qui sont derrière, puisque ça, c'est un autre métier qui est dans la chaîne des métiers autour de la lavande. Puis derrière, ce sont ceux qui fabriquent des produits dérivés. Je veux parler des savonniers, je veux parler de ceux qui fabriquent des lessives, puisqu'ils utilisent une partie d'huile essentielle de lavande et de l'huile de lavandin. Et puis, il y a les parfumeurs qui sont derrière, mais autour de tout ça, c'est-à-dire ça, c'est la filière de la lavande. autour de cela, il y a toute une économie régionale. Bon, et on le voit bien au travers des parcs, notamment le parc du Luberon et le parc du Ventoux. Autour de la lavande, ces deux structures que sont ces parcs font la promotion de la lavande. Pourquoi ? Ben parce que c'est le tourisme, la lavande, mais c'est aussi l'agriculture induite, c'est aussi tout ce qui concerne la mécanisation de l'agriculture de la lavande qui pourrait en pâtir, et donc c'est une véritable économie régionale, et que si ce funeste projet est mis à exécution, c'est l'ensemble de ces professions qui vont être touchées de plein fouet. C'est-à-dire que demain, c'est véritablement du chômage, de l'arrêt d'activité. Et de toute manière, il y a un autre point à souligner, c'est que dans ces régions que sont le plateau de Sceaux, Saint-Christol, Valensol, la Drôme, ils ne poussent rien d'autre. C'est-à-dire que le terroir tel qu'il est constitué, le climat tel qu'il est constitué, l'altitude telle qu'elle est, ne permet la culture que de la lavande et éventuellement, s'il n'y a pas de sécheresse, éventuellement de l'épeautre qui est le petit blé dur qui peut s'accommoder éventuellement de conditions de culture très difficiles. Mais en dehors de la lavande, rien ne pousse dans ces terrains. Donc aujourd'hui, on est en train d'assassiner une véritable filière. On est en train d'assassiner des agriculteurs, des transformateurs. Et ça, c'est pas tolérable, je veux dire, que surtout quand il n'y a pas de solution de rechange.
Alors, monsieur le sénateur, en août de cette année, avec madame la sénatrice de la Drôme, Marie-Pierre Monnier, vous avez déposé un amendement visant à financer à hauteur de 10 millions d'euros la sauvegarde de la production de lavande. Où en est-on actuellement de cet amendement et a-t-il été accepté?
Alors, on a défendu cet amendement avec madame Marie-Pierre Monnier et avec Jean-Yves Roux aussi, qui a été adopté au Sénat, effectivement, comme vous le soulignez, avec une immense majorité, plus de 250 voix sur 300 et quelques, pour soutenir la filière et notamment les 10 millions d'euros consacrés à ce soutien. Alors, sauf que c'est fait pourquoi ? C'est d'abord pour essayer d'inciter les régions qui ne sont pas historiquement des régions de culture de lavande. Parce qu'il s'est passé une chose, c'est que il y a 4-5 ans, à peu près 5 ans, les cours de l'huile essentielle de lavande ont nettement augmenté, puisqu'on était autour de 100 euros le kilo de l'huile essentielle de lavande. Donc, d'autres régions se sont lancées dans la culture de la lavande, notamment dans la Beauce, ce qui est quand même un peu une ineptie. Le long de la vallée du Rhône, on trouve maintenant de la lavande, alors que ce ne sont pas des lieux de culture traditionnels. Donc ça fait quoi ? Ben ça a concouru à une chute des cours. Et aujourd'hui, entre la directive théorique d'un côté et puis l'effondrement des cours, ben la profession est malmenée. Et donc l'idée de ces 10 millions d'euros d'aide immédiate à la filière, c'est d'inciter des agriculteurs à supprimer des plants de lavande dans les zones où on n'est pas dans une culture traditionnelle de la lavande. J'ai parlé de la Beauce, j'ai parlé de la vallée du Rhône. Et puis d'inciter à planter autre chose, notamment du blé, puisqu'il y a une demande en blé beaucoup plus importante. Ceci dit, nous, on n'est pas sûr, et d'ailleurs on a eu une grande réunion vendredi dernier, il y a 3 jours, à Sédéron, dans la Drôme, avec la filière et les élus locaux, on était une quarantaine, là, on a travaillé ensemble, et d'après les retours que l'on a de la part de la filière, il semblerait que le gouvernement, par ses hauts fonctionnaires, n'y mette pas trop du leur, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on parle des 10 millions, mais en fait, pour l'instant, ils estiment que les 10 millions, ben, c'est compliqué, il faut voir dans quelles conditions ça va se faire. Oui, mais pourquoi pas, mais bon, voilà. Alors que ça a été voté au Parlement. Puis il y a un deuxième point, c'est que là aussi, nous, on a une inquiétude, c'est que bien que ce soit voté au Parlement, c'est une mesure strictement à destination des agriculteurs qui font de la lavande français. Et vis-à-vis de la communauté européenne, c'est une mesure individuelle réservée aux Français et que dans le sens du communautaire, il est possible que Bruxelles refuse cette dotation de 10 millions d'euros. Et ça, c'est un gros problème parce que effectivement, vous savez qu'on ne peut pas financer un secteur d'activité dans le cadre de la communauté dans un pays et pas dans les autres. Parce que là, il y aurait effectivement une distorsion, quoi. Donc là, c'est encore une hypothèse de difficulté sur le fait que ça puisse aboutir. En tout cas, nous, on a fait notre travail de parlementaire, on s'est battu pour, on a pu faire voter, ça a été acté. D'ailleurs, si vous lisez les comptes rendus du Sénat, vous verrez les débats qui ont eu lieu et puis le vote qui a eu lieu. Voilà, mais on n'est pas encore au bout de cette affaire-là.
Et justement, vu qu'on n'est pas encore au bout, on va parler d'une pénurie d'eau qu'il y a eu à Sceaux cet été. Tout le monde est au courant. Et malheureusement, la filière lavande est aussi impactée par ces problématiques.
Complètement, puisque, comme vous le savez, vous venez de le dire, le plateau de Sceaux, cet été, a été touché par une pénurie d'eau potable, Oui. C'est-à-dire qu'on a même été obligé, par le biais du syndicat Rhône-Ventoux, d'affréter des camions-citernes pour amener de l'eau sur le plateau de Sceaux. Mais il se trouve une chose, c'est que, justement, je parlais de la qualité de la distillation de la lavande, ça se fait avec de l'eau claire, potable, pas de l'eau qu'on trouve n'importe où. Oui, les distillateurs ont été obligés de faire appel à ces camions d'eau qui sont venus de Carpentras, de la région de la Vallée, là, et qui ont dû, pour pouvoir distiller, le peu de lavande qu'il y avait, parce qu'ils ont été aussi sujets à la sécheresse, puisque la sécheresse a frappé aussi le plateau de Sceaux. Voilà. Donc ça pose le problème, qui est un problème conséquent, mais de la distribution de l'eau potable, et ça c'est un vrai sujet. D'ailleurs, Madame la Préfète s'en est saisie tout de suite, et je pense que avec l'aide de la région, du département, des collectivités locales, bien, moi je vais y travailler pour que effectivement on puisse trouver des solutions sur cette question de l'eau potable. Bon, parce que quand même à notre époque, manquer d'eau potable, c'est quand même difficile.
Alors, monsieur le sénateur, on va continuer toujours dans le domaine de l'agriculture, puisqu'on parlait de lavande, mais on va continuer vraiment dans ce domaine de l'agriculture avec une question toute simple. Comment est-ce qu'elle se porte, l'agriculture en Vaucluse? Et on va en venir sur la partie notamment des cerises et des olives, avec notamment ces attaques aux moucherons.
L'agriculture se porte bien en général parce que nous avons de très bons agriculteurs. Je veux dire que le département de Vaucluse est d'abord un département agricole, de production agricole, vous en avez cité deux, mais c'est aussi le maraîchage, mais c'est aussi les céréales, c'est aussi tout un tas de cultures, la vigne, la viticulture. Bon, on est connu dans le monde entier pour les crus que nous avons dans notre département, mais comme tous les départements du Sud, et particulièrement le nôtre, on a été frappé par les questions de la sécheresse, et bon, moi je vois, à côté de chez moi, je suis à Altaine des Palus, il y a des champs de maïs qui sont aujourd'hui grillés sur pied, quoi. Donc, il y a ça, il y a eu les effets, et encore que le département de Vaucluse est un des départements les plus irrigués par les canaux, puisque ce sont des canaux qui existent depuis très longtemps, qui avaient été mis en place pour justement irriguer l'agriculture. Et alors, on a un autre souci qui, comme vous le disiez, qui concerne la cerise et l'olive, par ailleurs, qui sont aujourd'hui attaquées par des moucherons, des mouches, alors pas les mêmes pour les deux fruits, mais et que la lutte contre les produits phytosanitaires qualifiés, entre guillemets, de toxiques, fait qu'aujourd'hui, les seuls produits qui sont capables d'éliminer ces mouches qui attaquent la cerise d'une part et l'olive de l'autre part, sont interdits. Et donc, ce qu'on répond, enfin, le ministère de l'Agriculture, ce qu'il répond aux agriculteurs, par le biais des chambres départementales d'agriculture, d'ailleurs, et la direction de l'agriculture dans le département, c'est de dire, ben, vous n'avez qu'à mettre des filets tout fins autour de chaque arbre. C'est-à-dire depuis le pied, on enveloppe tout l'arbre jusqu'au pied, on noue sur le tronc ce filet. Sauf que quand on se rapproche des professionnels et des agriculteurs, ils nous expliquent que c'est quasiment impossible. Oui. D'abord, ça demande un investissement considérable, l'acquisition de ces filets, et surtout la pose. Et ensuite le retrait, puisqu'après il faut tailler, il faut faire tout un tas d'opérations sur chaque arbre. Bon, et donc c'est une manutention qui est quand même extraordinaire et qui alourdit bien sûr l'exploitation, les charges d'exploitation. Et donc à partir de là, nos agriculteurs, ils disent une chose, parce qu'ils sont quand même désespérés, ils disent mais autant arrêter la culture de la cerise, puisque si on peut plus cultiver à cause de la mouche, et comme le produit, le fruit devient impropre à la consommation dès lors qu'il a été piqué s'il y a un verre à l'intérieur et donc c'est invendable, ils disent si ça continue comme ça, si on n'a pas de solution pour pouvoir traiter nos arbres, que ce soit les cerises ou les olives, on va arrêter. Et puis au bout du bout, tout compte fait, on va arracher, puis peut-être on plantera autre chose. Donc ça veut dire que la filière, ces deux filières-là, cerises et olives, aujourd'hui sont vraiment malmenées et qu'il faut absolument qu'on trouve des solutions, peut-être de façon exceptionnelle, à autoriser les produits qui permettent de lutter contre ces insectes. Voilà.
On l'a bien entendu, Monsieur Stanzione. Et dernière petite question sur l'agriculture. Suite justement à la sécheresse de cet été, est-ce qu'il y aurait des solutions sur la partie irrigation, peut-être un renforcement du canal, notamment, qui heureusement est là dans notre département?
Alors, il y a un grand projet sur lequel moi je travaille avec l'État et un préfet qui a été nommé d'ailleurs au niveau national spécialement pour toutes les questions d'irrigation suite au Varenne de l'agriculture l'an dernier. C'est le projet HPR qui est donc l'irrigation du nord du département et du sud de la Drôme par une prise d'eau qui se situerait donc à Bolène au niveau de l'usine électrique de Mondragon, là par là. C'est sur la commune de Bolène. Et ce projet d'irrigation viendrait se boucler sur le canal de Carpentras jusqu'à Carpentras. Et peut-être on pourrait envisager de pousser plus loin pour peut-être monter un peu plus haut et dans la Drôme, dans le sud Drôme, mais également dans l'est de notre département. Alors, la Chambre régionale d'agriculture est sur le dossier, la Chambre départementale y est aussi, la préfecture y est, le département y est aussi, la région aussi, parce que c'est un projet qui va coûter extrêmement cher, mais qui est l'avenir de notre département. C'est-à-dire que, si vous voulez, le sud du département ainsi que le centre de notre département sont plutôt bien irrigués maintenant. Le sud, grâce à la société de Provence d'eau, qui puise dans la Durance en dessous du Luberon, et puis le canal de Carpentras qui irrigue tout le centre du département, où là on a une prise d'eau qui est faite au niveau de Malemort et où l'eau revient dans le centre. Mais la partie la plus déshéritée, c'est le nord, que je vous expliquais auparavant, et puis le plateau de Sceaux. Alors, plateau de Sceaux, il y a deux solutions, c'est soit de faire monter de l'eau depuis le Luberon d'ailleurs, puisque c'est de l'eau de la Durance qui se trouve dans le Luberon, ou peut-être boucler avec le projet d'irrigation nord. Voilà. Donc il y a un grand projet qui va prendre des années, je pense, pour sa réalisation, mais tout le monde a la volonté, effectivement, parce que c'est l'avenir de notre département qui est en jeu sur cette affaire-là.
Alors, Monsieur Stanzione, on va complètement changer de sujet maintenant, puisqu'on va parler de gestion des logements sociaux.
Alors, en ce moment, vous travaillez sur la loi Allure, accès au logement et urbanisme rénové. Qu'est-ce que c'est que cette loi exactement et est-ce qu'elle est bien respectée?
Alors, la loi Allure, c'est un peu un fusil à deux coups, quoi. Alors, le premier coup a été tiré, c'est-à-dire que c'est la loi Allure 1 qui, il y a quelques années, a défini le seuil du nombre de logements par organisme de logements sociaux à 15 000 logements. En dessous de 15 000 logements, il peut pas y avoir d'office d'HLM ou d'organisme d'HLM. C'est impossible. Bon, il avait été estimé à l'époque que c'était, disons, le minimum pour que la structure soit bien gérée. D'ailleurs, ça a permis, cette loi, le rassemblement entre Mistral Habitat, anciennement, et l'Office public de la ville d'Avignon, enfin, qui était après l'Office public du Grand Avignon, qui ont fusionné il y a 4 ans en arrière pour faire Valis Habitat, aujourd'hui, qui a 16 000 logements. Alors, on parle de la loi Allure 2. La deuxième version, le deuxième coup, sauf que la loi Allure 2, ça a été une intention du gouvernement, mais ce n'est jamais venu sur le bureau du Sénat ni de l'Assemblée nationale, ça n'a jamais été débattu, donc a fortiori, ça n'a jamais été voté. Et cette loi Allure 2 préconisait, dans son texte initial, de créer le seuil inférieur du nombre de logements par organisme sociaux à 30 000. Mais aujourd'hui, cette loi n'existe pas. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur cette loi pour prévoir des concentrations d'organismes de logements sociaux. Mais malgré cela, dans notre département, il y a des choix qui sont en train de se faire. Peut-être le département de Vaucluse a décidé de procéder à la dissolution et à la fusion de Valis Habitat dans Grand Delta Habitat, mais sans raison bien avouée, quoi. Bon, donc, moi, je pense que c'est un choix politique. Bon, moi, j'y suis opposé parce que je suis un fervent défenseur du service public de l'habitat social et plus généralement des services publics au service des usagers et de nos administrés, parce que je prétends et je continue à dire que Valis Habitat, dès lors que on a une bonne équipe d'encadrement, est une structure qui est viable et qui peut continuer à travailler avec des personnels qui sont sûrement de qualité, puisque j'ai connu ça de près, mais qui ont peut-être besoin d'être encadrés par une équipe dynamique de cadre. Bon, voilà. Le choix qui tente d'être fait aujourd'hui par le département est différent, en disant ben on préfère fusionner les deux organismes et puis ça ira mieux. Bon, moi je sais pas si ça ira mieux puisque on peut jamais prédire, mais en tout cas ce qui pourrait aller mieux, c'est qu'on s'en occupe mieux aujourd'hui. Donc moi je veux pas porter de polémique à votre antenne parce que c'est peut-être pas le lieu, mais en tout cas personnellement, moi je défends le service public du logement social. Je pense que les salariés, les 300 salariés qui sont dans cette structure, sont très capables de faire fonctionner leur structure. Mais après, faut-il que la décision politique le veuille. Bon, quand on n'a pas envie, ça peut pas fonctionner. Donc voilà, d'où mon désaccord sur cette question. On verra ce que dit le conseil départemental le 7 octobre. Et que je pense que c'est dans l'intérêt de nous tous, des locataires et des salariés, et des élus locaux, parce que dans la nouvelle configuration du futur organisme qui serait la conséquence de la fusion des deux, les élus locaux n'ont plus de place dans la gestion de la structure. Donc ça, c'est un gros problème, et les maires, il faut qu'ils puissent donner leur avis sur la gestion et sur les constructions nouvelles.
Voilà. On a bien entendu le vôtre, en tout cas, d'avis. Merci, Monsieur Stanzione. Alors, pour finir, on va parler de la culture. Oui. Culture au sens large, puisque vous faites partie d'une commission culture, notamment au Sénat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà votre participation à cette commission? Et puis après, on souhaiterait un petit peu venir sur l'inauguration de la Microfolie à Sceaux, notamment avec la possibilité d'assister ou de visiter le musée du Louvre en virtuel.
Oui, alors la commission de la culture, ben, comme tout sénateur, je suis dans une commission. Alors il y a 7 commissions au Sénat et donc nous nous répartissons les uns les autres. Bon, il y a des choix qui sont faits et par le président Larcher, mais également par les présidents de groupes politiques qui sont représentés au Sénat. Et donc on occupe soit la commission économique, soit celle du budget, soit de l'environnement, etc. Moi je suis à celle de la culture, mais c'est pas que culture, c'est éducation, c'est sport également. Et donc à ce titre-là, je participe à tous les travaux que conduit cette commission. En même temps, on s'occupe de l'audiovisuel, puisqu'on a eu, par exemple, il y a très peu de temps, à travailler sur la question de la disparition de la redevance télévision. Donc, on a été amené à entendre tous les acteurs, puisque le Sénat peut décider de mettre en place des commissions d'enquête qui sont investies d'un certain nombre de pouvoirs, notamment d'investigation, d'entretien, de réception des personnes concernées. Donc là, on avait reçu, je vous parle à propos de la redevance, les grands acteurs de la télévision pour connaître leur avis, les PDG, les présidents de ces organismes, bon, pour que le Sénat puisse donner son avis au gouvernement et ensuite voter ou ne pas voter la loi qui est proposée par le gouvernement. Donc nous, par exemple, sur la redevance, nous étions opposés à la disparition de la redevance, mais beaucoup plus pour une redevance progressive en fonction des ressources de ceux qui regardent la télévision. Mais ensuite, on s'occupe de tous les grands sujets. Je me suis occupé notamment des questions de restitution des œuvres mal acquises aux pays d'Afrique. Et donc l'idée, c'est qu'il faut qu'on restitue ces œuvres à ces pays, mais c'est très dur à mettre en place. Et donc là aussi, je fais partie d'une commission parlementaire qui travaille sur ces questions-là. pour qu'on puisse restituer à ces pays leurs œuvres et qu'on puisse en garder, nous, une trace pour faire partager, parce que l'œuvre culturelle est universelle. Donc, on doit pouvoir la partager avec tous. Donc, il faut qu'on trouve des systèmes qui permettent que ça continue à être partagé. Ça me fait penser au sujet plus local. Je vous parlerai de Microfolie. Pourquoi Microfolie? Ben, c'est une belle initiative nationale, d'ailleurs, qui est mise en place un peu partout en France. Et la ville de Sceaux et Claude Labrosse, son maire, a été tout de suite volontaire, et je lui tire mon chapeau pour ça, pour accueillir le concept Microfolie à Sceaux. Alors Sceaux, c'est une belle ville de notre département, mais qui a l'avantage et l'inconvénient d'être un peu isolée sur le plateau. C'est loin, on est loin d'Avignon, on est loin des grandes villes, on est loin de Marseille, on est encore plus loin de Paris. Et donc l'accès à la culture est difficile. C'est difficile dans le sens où c'est difficile d'aller à Paris, visiter le Louvre. Bon, ça représente un investissement personnel, financier, en temps. Et donc là, l'idée du concept de Microfolie, c'est d'apporter la culture nationale, au plus près de l'usager. Et donc, ce qui a été mis au point avec l'aide de l'État, avec l'aide de la région, du département, c'est que à la bibliothèque de Sceaux, eh bien, on trouve des tablettes, un tableau numérique, un immense tableau numérique au mur, et avec ces outils-là, qui sont connectés sur un réseau national, des Microfolies d'ailleurs, eh bien on accède à quasiment tous les trésors de la République et de la Nation. C'est-à-dire que on va pouvoir organiser, par exemple, une visite du musée du Louvre. Quand j'y suis allé vendredi à l'inauguration, ben on est rentré dans le musée en image, avec un casque sur la tête, avec un guide qui explique chaque œuvre, et puis on peut s'arrêter sur chaque œuvre avec un détail de qui en est l'auteur, comment ça s'est déroulé, enfin, etc. Et ça, je trouve que pour les usagers, c'est formidable, et c'est encore plus formidable pour les écoles en particulier, les centres sociaux aussi, tout ce qui concerne la jeunesse, qui va pouvoir accéder très facilement à toutes ces œuvres culturelles. Alors, pas uniquement des musées français, mais c'est aussi des grands musées internationaux qui sont partenaires de Microfolie, mais également des musées de province en France qui sont partenaires aussi et qui partagent leurs œuvres de façon numérique, à distance, par liaison numérique. Voilà.
Merci Monsieur Stanzion. Je suis désolé, on va devoir finir cette émission. Voilà, on a abordé pas mal de sujets, notamment sur la lavande, les logements sociaux, l'agriculture, et enfin, on vient de terminer avec la culture. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, puisque c'était l'émission Faut qu'on en parle, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on espère à très vite, en tout cas, voilà, pourquoi pas dans nos studios et puis dans d'autres occasions. Merci beaucoup. Merci aussi à Bruno.
Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.